J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme qui a changé. Avant, quand il était jeune, il n'avait que mépris pour les petits bonheurs. Vous savez, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules du quotidien. L'émerveillement devant une petite fleur éclose en pleine ville, dans une fêlure du bitume. Le goût du café du matin. Le bonheur de prendre son chat dans ses bras. Tout ça, quoi. Tous ces petits bonheurs, ça le rendait fou. C'était pour lui une philosophie de ramasse-miettes. Celle des gens qui se contentent des miettes du grand festin de la vie et en font tout un plat. Lui, avant, il ne rêvait que du bonheur immense, le grand soir révolutionnaire, l'amour-passion, l'extase mystique. Alors, les petits bonheurs, il les laissait à tous ceux qui savaient se contenter des miettes, à tous les petits bourgeois, à tous ceux qui avaient renoncé au grand soir pour se concentrer sur la douceur d'un soir d'été ou sur leur goût du petit expresso du matin. Ah, comme il était jeune, comme il était con aussi. C'était avant que la vie ne lui enseigne à savoir se réjouir de ce qui est, avant que la vie ne lui passe dessus avec son lot de grands malheurs, d'injustices, de blessures d'ego, avant que la vie ne lui apprenne qu'il n'y a pas de petits bonheurs, que tous les bonheurs sont grands pour qui sait ouvrir son cœur, ses yeux et sa capacité d'attention au monde et aux autres, avant que la vie ne lui apprenne combien les petits bonheurs sont un baume sur les cœurs blessés. Avant qu'ils comprennent que le simple fait d'exister est déjà un miracle, que n'importe quel sourire est déjà un défi à la violence du monde, et qu'il y a en effet, dans la présence miraculeuse de cette petite fleur, éclose dans une fêlure du bitume, de quoi s'émerveiller. Comment a-t-elle fait, d'ailleurs, cette petite fleur? Comment a-t-elle trouvé un chemin pour jaillir entre deux dalles de béton? Et cette première gorgée de bière, d'où vient son pouvoir de nous conduire soudainement à consentir au tout de la vie entière? Tous les petits bonheurs ne cachent-ils pas un grand miracle? N'y a-t-il pas dans n'importe quelle petite fleur, dans n'importe quel bruit de la tasse de café que l'on repose sur le zinc, la promesse d'un grand oui à la vie profondément spirituelle? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir un chanteur hédoniste et sensuel qui a su réconcilier le jazz manouche et la chanson française. Également comédien, en pleine tournée tout cet été, il nous a fait le grand bonheur de ce petit détour sous le soleil de Platon. Thomas Dutronc, donc, vous l'avez reconnu. Merci Thomas, est avec nous ce matin. Et en sa compagnie, nous allons nous demander si les petits bonheurs ne sont pas au fond notre plus grande chance.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Thomas Dutronc.
Bonjour Charles.
Merci beaucoup d'être là. Je sais que ça n'a pas été facile et vous sortez d'une nuit dans un bus non climatisé.
Ouais, on a un bus là qui a des problèmes de clim. C'est vrai que c'est un peu dur. En plus, j'arrête pas de dire dans des interviews que j'adore le tourbus. C'est vrai qu'on s'amuse bien avec les amis musiciens, nos amis techniciens. On est tous dans le bus. On a tellement de chance de faire ce métier. C'est un métier extraordinaire, génial. Mais parfois, il y a des conditions de travail comme ça qui sont un petit peu dures.
Ouais. Bah, ça tombe bien.
Voilà.
Ça tombe bien parce qu'on vous prend au sortir du bus.
Oui.
Merci. Et alors, dans votre dernier album, Il n'est jamais trop tard, il y a justement une chanson qui s'appelle Les petits bonheurs. Je propose qu'on l'écoute juste le début parce que ça nous lance bien dans le thème.
Chercher des formes dans les nuages ou la mer dans les coquillages. Ne plus penser au lendemain. Se balader sur les chemins. Peindre en couleur des nuits blanches. Prendre la vague sur sa planche. Écouter tard un concerto, un mot d'amour sur le frigo, si c'était ça.
Le bonheur, ça donne envie de chanter. Ouais, c'est joli, mais est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est que ça?
C'est drôle, c'est une chanson qu'on a faite pendant le confinement. Tu sais, donc c'est peut-être cette privation de tous les bonheurs simples de la vie, se retrouver qu'un copain au café. D'un seul coup, on se rend compte que tout est précieux. Moi, j'adore ne rien faire aussi, mais ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on peut le faire. Donc, c'est là, si on peut pas le faire, c'est embêtant. Donc, pendant toutes ces privations, voilà, on a écrit cette chanson en mode visio confiné.
Ouais.
Et puis voilà, on a fait une liste petit à petit de choses qui. Mais c'était un bonheur de faire cette chanson parce que finalement, cette liste, une fois qu'on avait trouvé l'idée. On travaillait sur la liste des bonheurs. Alors, il y a un milliard de choses, mais il fallait trouver des rimes, des trucs. Ça a duré un moment, mais on s'est bien amusé.
Ouais, il y a plein de choses concrètes.
J'ai choisi le Saint-Estèphe pour parler de Pinard.
Saint-Émilion. Ouais, j'ai bien écouté.
Parce que ça rime en on.
Ouais.
Alors, hier, il y avait un grand vigneron.
Ouais.
Qui fait du morgon. Et je me suis dit, tiens, j'aurais pu faire le morgon aussi, parce que qu'est-ce que c'est bon, le bon Beaujolais, là, c'est.
Bah ouais. Et juste, la question que je me suis posée, c'est assez récurrent, finalement, dans tous vos albums. Dans l'album Frenchie, il y avait déjà une chanson qui s'appelait La Belle Vie, qui était plus jazzy. Et vous disiez que La Belle Vie, c'était quand il n'y a pas de soucis, quand il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pensez que La Belle Vie, c'est quand il n'y a pas de soucis? Ou plutôt quand il y a des soucis mais qu'on arrive à trouver la vie belle quand même.
Qu'est-ce que tu veux, c'est des hauts et des bas, il y a toujours des... Malheureusement, il y a des grands drames de la vie, c'est une espèce de loterie. C'est pour ça que c'est bien de pas se prendre au sérieux, de se serrer les coudes et d'essayer d'être gentil, d'essayer de sourire, ouais. De rire, de chercher être à la recherche de la rigolade, c'est vachement important. Et puis de toujours sourire à l'autre. On est dans une époque où, et dans un pays, je crois, où les gens, il y a de plus en plus de violence. Et malheureusement, voilà, les courtoisies simples, ça se perd un petit peu. Donc c'est un espèce de message très simple que j'ai voulu.
Mais en même temps, ça se perd. Enfin, il y a quand même, c'est encore présent. Mais vous êtes arrivé à ça. Avec une sorte de sagesse de milieu de vie, ou depuis toujours, vous avez été plutôt sympa, bienveillant?
Depuis toujours.
C'est votre nature, quoi.
Toujours, oui. Après, je me suis rendu compte que j'avais de la chance en ayant des parents célèbres, mais également hors de danger matériellement, qui avaient bien réussi leur vie. Donc j'avais une belle vie déjà, c'est vrai, très confortable. Donc avec cette chance-là, après j'ai eu une période comme ça un petit peu difficile, où je me suis dit, merde, mes parents ont tellement réussi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Moi, entre 17 et 19 ans, j'étais pas très bien dans ma peau, mais en tout cas j'ai des petites phrases de philosophie à cette époque-là où je me cherchais, comme le sourire que tu envoies te revient droit au cœur, des petites philosophies comme ça très simples. Je regardais les Pink Floyd en boucle, enfin j'étais un peu hippie, quoi. Je préférais aller faire j'avais envie de faire du fromage de chèvre et de la guitare dans le Larzac plutôt que de travailler dans un bureau ou dans une grosse boîte. Enfin, j'étais rebelle, quoi.
Mais d'ailleurs, quand on vous connaît pas trop, on connaît pas ce moment un peu d'hésitation, de doute, donc vers 18 ans, presque d'opposition, parce qu'on a l'impression que vous êtes très, très simplement et très joliment héritier et que ça vous va très bien.
J'ai été sauvé. Non, j'étais pas bien parce que, malgré tout, mes parents, si fantastiques qu'ils soient, ils ont aussi leurs névroses, leurs angoisses, leurs problèmes.
Bon
on va dire que c'était pas le truc, la sérénité, c'était pas non plus très très simple, voilà, au niveau émotionnel, on va dire, de parents un peu compliqués. Mais enfin, quand j'ai trouvé la guitare et aussi Georges Brassens et Django Reinhardt, la philosophie, la musique, les paroles de Georges Brassens m'ont fait énormément de bien, m'ont vraiment soigné l'âme et m'ont illuminé ces périodes un tout petit peu plus sombres pour moi, parce que le monde me faisait peur. Et puis la musique de Django Reinhardt aussi m'a vraiment illuminé. J'écoutais beaucoup de musique de tous les styles, de tout style actuel, évidemment, depuis que j'étais jeune. Mais d'un seul coup, Django Reinhardt, ce génie de la musique, m'a vraiment élevé. Et depuis, on va dire en plus la musique depuis 30 ans. Déjà, j'aimais pas la musique actuelle depuis 30 ans. Donc là, maintenant, si vous voulez, c'est.
Mais c'est marrant parce que c'est terrible. C'est comme si vous avez eu besoin, enfin, je me trompe peut-être, hein, de technicité aussi. C'est un jazz très technique, et que quelque part.
Enfin, c'est virtuose, mais pas technique parce que toutes les notes sont senties, à la différence de plein de jazz où c'est des gammes un peu qui se déroulent et c'est très beau aussi, ça peut créer des esthétiques. Mais Django Reinhardt, il est à cheval entre toutes les musiques. Il fait un style, d'ailleurs, qui ne ressemble à personne d'autre et c'est pour ça que tout le monde le copie et cherche. Toutes ces notes ont du poids et c'était le plus grand guitariste de tous les temps, quoi. Donc c'est assez fou sa manière d'improviser, de vivre. Et puis il est manouche, donc il a vécu en France et tout, on avait de la chance. Voilà, il a joué à une époque où tous les blacks américains, les plus grands jazzmen des États-Unis venaient en France, étaient accueillis comme des dieux à Paris. Voilà, c'était tapis rouge, Saint-Germain-des-Prés, la fête, pas de préjugés, pas de racisme, des dieux du jazz. C'est là où la France a créé tous ces festivals de musique. Alors qu'aux États-Unis, les Noirs, il y avait la ségrégation, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes toilettes, dans les bus et tout. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. C'est que nous, on copie un petit peu les problèmes. On copie les problèmes des États-Unis avec notre musique urbaine et tout ça, mais en vrai, c'est beaucoup plus simple ici. Et voilà, c'est pas la même histoire.
On va écouter un peu de Django Reinhardt, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on l'écoute, on se dit en quoi ça vous a libéré, cette musique de Django Reinhardt, vous personnellement, par rapport à ces tourments que vous évoquiez?
Ça m'a permis de découvrir une musique encore plus grande, encore plus belle. Que je sais, moi j'écoutais j'adorais le disco pour son énergie. J'adorais, d'un seul coup, j'ai découvert la musique classique, Chopin ou Bach, ou pour des émotions comme ça, un espèce de mysticisme. J'ai toujours aimé la pop, les choses. Qui donnent beaucoup d'énergie, qui se prennent pas tellement au sérieux, qui sont pas grandiloquentes. Et d'un seul coup, Django réunissait tout. des petits formats comme ça de 2 minutes, 33 minutes. À la fois, il y a la beauté du classique, la perfection de la forme instrumentale qu'on trouve dans la musique classique, mais aussi l'énergie et la simplicité qu'on trouve dans les musiques populaires. Donc, pour moi, il a résumé un peu tout. Puis on s'est trouvé dans une espèce de bande comme ça. J'avais 19, 20 ans avec des tas de mecs géniaux. Il y avait Sanseverino, il y avait Hervé Leget qui sortait d'un groupe de hard rock. Il disait, mais c'est encore plus hard rock que...
Ah ouais.
Django, c'est encore plus hard rock que le hard rock. Enfin, c'est... Voilà, donc on...
Et Brassens, c'est encore plus hardcore que NTM. ce que beaucoup de gens ont dit. Hein.
Moi, je trouve. Je trouve. À l'époque, c'était plus osé, évidemment. Évidemment, c'était osé. En France, maintenant, on peut dire un peu tout ce qu'on veut, qu'on est vraiment quand même protégé, quoi. Justement, il y a beaucoup de gens bienveillants, notamment dans cette radio où tout le monde se met à votre place, essaye de comprendre tout le monde est quand même très gentil, quoi. Il y a pas trop de censure, on va dire. Donc, alors qu'à l'époque de Georges Brassens, quand il disait des choses sur la police ou tout ça, c'était... Et en plus, il y avait toujours un fond quand même de tendresse et de deuxième degré. C'est ça la différence. Il était...
Sur l'église aussi.
Sur l'église aussi. Il était anard, mais il y avait quand même énormément de tendresse, et au fond toujours ce truc, ce message qu'il dit dans La Complainte des filles de joie, où il parle des prostituées, et où il dit cette putain dont tu te moques, elle aurait pu être ta mère, quoi. C'est... Donc toujours se mettre à la place de l'autre. Ça a été un des grands messages pour moi de Brassens.
Alors Thomas Dutronc, vous parliez de vos deux parents, Jacques Dutronc et François Hardy. Vous disiez que ça n'a pas toujours été si simple, malgré la facilité matérielle, qu'ils étaient un petit peu névrosés comme tout le monde. Mais justement, on dit souvent de vous, ça y est, Thomas Dutronc s'est fait un prénom. On dit aussi ça, on a dit ça de Mathieu Chédid par rapport à Louis Chédid ou à sa grand-mère, on a dit ça de Vincent Delerme par rapport à Philippe Delerme qui avait justement écrit ce livre que j'évoquais, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Mais quand je vous vois et je vous entends chanter, ou que j'entends chanter Vincent Delerme, je suis pas d'accord. Pour moi, vous n'êtes pas fait un prénom, vous avez changé la résonance du nom. C'est plus intéressant. C'est qu'en fait, on entend maintenant Dutronc autrement. Ça s'est élargi en quelque sorte, ça a résonné autrement.
Moi, j'ai un tout petit peu l'impression de reprendre l'entreprise familiale, presque, mais à ma manière, j'ai eu... C'est vrai que mes parents ont tellement de talent, ils ont fait des chansons tellement sublimes, ils ont marqué tellement leur génération, ça a été des superstars. Encore aujourd'hui, ils ont des titres... Je sais pas, j'en parlais par exemple à Alex de Franz Ferdinand, le chanteur, il est ultra fan de mon père, il y a des groupes aux États-Unis, en Angleterre, qui sont fans de mon père, sans parler de ma mère, qui a été la seule chanteuse dans le classement des meilleurs chanteurs de tous les temps, donc du journal Rolling Stone. Et donc, bah voilà, les Rolling Stones, Mick Jagger, qui adorait ma mère, les Bob Dylan, etc. Donc, il y a quelque chose d'incroyable. Ils ont vraiment un talent énorme. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de, pour les tuer, entre guillemets, un petit peu de trouver Brassens, ou à l'époque,
Django.
Brel, Django, tout ça, des gens qui, oui, ils ont été encore plus loin. Il y a toujours plus fort, quoi. On peut penser, je sais pas, à Einstein, à Pasteur ou des gens. Mais il y a toujours, voilà, c'est pas le but, c'est de faire de son mieux. Le but, c'est de repousser ses limites, de progresser, de travailler, d'être humble, d'être modeste, d'être artisan, de faire des efforts, de faire des progrès, mais aussi de profiter de la vie, tout simplement. Mais c'est ce que, voilà, j'essaye de réunir toutes ces données dans mon équation à deux personnes connues.
Et ben on va écouter justement un duo de vous avec Clara Luciani, juste un extrait où vous reprenez une chanson de votre mère.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon...
Là, on est dans le sujet.
Écoute, c'était une petite reprise. On avait fait cet album Frenchie, donc l'idée c'était de prendre des thèmes français qui ont fait le tour du monde et les faire en duo, moi, avec que des chanteurs internationaux. Donc, j'ai eu une liste incroyable.
Iggy Pop, Diana Krall.
Ouais, voilà, Billy Gibbons et ZZ Top, le leader. Fantastique, extraordinaire, tellement gentil, tellement d'humour. Moi, ZZ Top, c'était un de mes concerts les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie. Voilà, il y a eu Jeff Goldblum, Elle Reinhardt, Yoon Sun Na, qui est une chanteuse coréenne fantastique, d'une humilité, d'un talent incroyable. Stacey Kent aussi. Et donc, le pitch de cet album, c'était uniquement de chanter avec des gens internationaux.
C'était
on avait envie de Frenchie. On avait envie de partir un peu jouer à l'Inter, faire autre chose. Sauf qu'il y a eu le confinement, donc tournée annulée, tout annulé, tout ce projet annulé. Et pour Noël, la maison de disques m'a demandé de faire des bonus. Et on a fait des bonus un petit peu à l'arrache, on va dire vite fait en studio. Mais bon, vous voyez, le résultat est pas si mal. Mais
on c'est sublime même.
Du coup, là, on est resté franco-français. Donc
Et d'ailleurs, elle a la même voix, un peu le même timbre, non?
Pas vraiment quand même, non.
J'imagine que
non,
pour son fils, non mais...
Non, quand même, non. Les gens la comparent un petit peu avec la France, ouais. Tout ça, mais c'est pas du tout la même voix. Elle a une voix beaucoup plus grave. Enfin, ça a rien à voir. Non, vraiment rien à voir.
Alors, j'ai dit une connerie, c'est pas grave. Et en fait, quand vous parliez de vos parents, vous avez dit quelque chose de très, très beau et très simple. Et je crois que c'est valable pour nous tous, même si on n'a pas comme parents Jacques Dutronc et François Hardy. Vous dites, pour hériter, pour trouver sa place quand on a des grands avant soi, vous avez dit trois choses très jolies. Je fais de mon mieux, faire de son mieux. Je pense que c'est une belle réponse. Toujours faire de son mieux à son niveau, c'est une façon d'accepter sa place et de l'apprendre. Et vous avez parlé de joie, tout simplement. La joie d'aimer faire ce qu'on fait et de donner la générosité. Et j'ai l'impression que dans ces trois idées, joie, générosité et faire de son mieux, il y a presque une éthique de vie pour bien vivre sa situation, quelle qu'elle soit.
Oui, tout à fait, parce que oui, alors quand on a des parents comme ça aussi aussi talentueux, aussi connus, etc. C'est on peut mettre aussi les choses en rapport avec, par exemple, les parents de mes parents. Mon grand-père paternel était quelqu'un de très cultivé, qui adorait Balzac, qui était pianiste aussi, mais amateur. Il faisait les balles la semaine. Il avait un humour incroyable. Il était génial, quoi. Je l'adorais. Mais bon, lui, il a pas eu. Il y a aussi des concours de circonstances. Mon père a rencontré Lanzmann. Ils ont fait ces chansons sublimes. Tous les tubes ont été faits en 3 ans. Enfin, il y a aussi une part de hasard, une part de chance. Enfin, tout ça est très compliqué, quoi. Donc,
c'est aussi une façon de relativiser.
Oui, voilà. Faut relativiser. Puis je vous dis, on fait de la chanson, on n'est pas chirurgien. Il y a cette espèce de culte de pop culture où les gens se mettent à être fans, tout ça. Mais enfin, c'est, voilà, des fois, ils sont fans de gens, d'artistes, tout ça. Ils savent pas que les gens, en fait, sont des épouvantables dans la vie. Mais, enfin, je sais pas, il y a un truc curieux quand même avec ça.
En gros, vous dites ce ne sont que des chansons. Et bien justement, on va écouter Thomas Dutronc, une de vos chansons, Larguer les amours, sur votre dernier album, sorti il y a à peu près un an, Il n'est jamais trop tard.
Merci.
On s'était dit c'est pour la vie, on avait dit ça. Je ne sais plus pourquoi. Restons bons amis. Tu vois, tu souris. On se reverra, on en ira. Surtout ne m'en veux pas. À deux, je ne tiens pas. Avant que le bateau ne coule, je préfère lever l'ancre. Avant que le vent ne tourne, je préfère lever l'ancre. Larguer les amas, larguer les amours, larguer les amas. Miracle ou bien mirage, l'idylle déserte au loin se dessinait. Sur une mer d'huile et sans orage, qui de nous deux l'aurait imaginé? Tournons donc cette page, écrivons le mot fin, le temps le couvrira de sable fin. Avant que le bateau ne coule, je préfère lever l'ancre. Avant que le vent ne tombe, je préfère lever l'ancre. Larguer les amarres. Larguer les amours, larguer les amours. Prends au passage l'été indien, ton équipage de deux salles de bain. Abandonne-moi sur une plage, une guitare entre les mains. Je pourrais pêcher des tas d'images, ça finirait par un naufrage. Avant que le bateau ne coule, je préfère lever l'ancre. Avant que le vent ne tombe, je préfère lever l'ancre. Larguer les amarres, larguer les amours, larguer les amours.
C'était Thomas Dutronc, évidemment, Larguer les amours.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Thomas Dutronc qui nous a fait la chance de sortir de ce bus non climatisé entre deux dates de tournée pour nous rejoindre. D'ailleurs, je précise que vous serez très bientôt dans 3 jours, le 21 juillet, au festival Nuit de la guitare à Patrimonio, puis le 27 juillet au festival Les Escales de Saint-Nazaire à Saint-Nazaire, 28 juillet à l'Île-Dieu, Viens dans mon île, 1er août, Ronquières, 4 septembre, Thuir, 5 septembre, les musicales du Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes. Donc voilà, vous êtes en pleine tournée. C'est un bonheur de vous recevoir. On va revenir un peu sur le sujet du bonheur d'ailleurs. Vous parlez beaucoup dans vos chansons du carpe diem, de l'instant présent. Vous y croyez vraiment ?
C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Est-ce qu'on croit à ce qu'on raconte dans les chansons ? Oui, quand même un peu, sinon on ne parlerait pas de ça. C'est vrai que le carpe diem revient souvent. Il y a des moments comme ça, on fige l'instant, on dit « putain, là on est bien, on aimerait que ça dure toujours ». Voilà, hélas, tout est éphémère. Hélas, oui. Il y a des gens extraordinaires qui sont déjà partis. Django Reinhardt est mort à 43 ans, alors qu'il y a plein d'imbéciles qui vivent très vieux.
Ouais.
Donc c'est... voilà, mais j'ai, ça c'est sans doute hérité, c'est grâce à mon père, je pense. J'ai vraiment la culture de la camaraderie, en tout cas. Alors, j'ai peut-être été un peu plus loin que lui dans le côté amitié, enfin, bien qu'il ait beaucoup d'amis, mais je...
Vous êtes un homme de bande, quoi.
Ouais. Sans mauvais jeu de mots.
Mais d'ailleurs, ça revient aussi à la chanson, là, Larguer les amours. Comme si l'amour, peut-être, qui nous attache trop, qui nous fait souffrir, qui nous rend possessif, était une entrave au bonheur, au fond.
En tout cas, faut pas rester dans quelque chose de toxique. On est vraiment mieux seul que mal accompagné, quoi. C'est un peu le...
Voilà. C'est facile à dire, non ?
Les situations sont beaucoup plus complexes. Parfois, voilà, il y a tellement de... Il faut savoir dire au revoir si on le sent pas, quoi.
C'est votre philosophie de la vie. Thomas Dutronc, par rapport à ce carpe diem, cet instant présent, vous êtes souvent, enfin, vous présentez comme un hédoniste, vous parlez de potes, de camaraderie, de bienveillance, de vin, de fête aussi.
Oui.
Et il y a une phrase de Bergson à laquelle j'aimerais vous faire réagir qui dit, il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Ça veut dire qu'en gros, si vous portez à vos lèvres, comme hier soir, ce bon verre de Morgon, bah vous allez l'apprécier pas simplement au présent, mais aussi par différence avec tous les Morgons d'avant que vous avez bu, par comparaison implicite avec toutes les perceptions passées. Du coup, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de carpe diem, vraiment.
Voilà, c'est ça. On a goûté les côtes de pie en Morgon, c'est Jean Foilard, qui est un vigneron incroyable, qui fait un des meilleurs...
Jean Foilard.
Jean Foilard, un Beaujolais qui s'appelle Fleury aussi, qui est un délice, quoi. C'est des vins vraiment de délicieux, quoi. C'est très fruité. Il y a des vins de soif aussi qu'il fait, c'est-à-dire pas trop fort, qui sont tellement agréables en apéritif. Rien à voir, évidemment, avec le Beaujolais nouveau, hein. C'est des vrais vins magnifiques.
Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi, chez les vrais esthètes, ceux qui aiment vraiment la vie, vous semblez en être, il y a cette idée aussi qu'on n'a pas besoin d'un truc très compliqué. Et un petit vin de soif peut finalement proposer une vraie émotion. Quelque part qui annonce les vins un peu meilleurs de la même gamme, mais qui les promet, qui a une promesse, quoi.
Bah oui, c'est ça, évidemment, il peut y avoir des plaisirs simples. Bien sûr, enfin c'est pas... le plaisir est accessible quand même à tout le monde, quoi. Maintenant, tout le monde a Internet et compagnie. Enfin, le plaisir, c'est de débrancher justement Internet. Mais je sais pas, pour en revenir, chaque chose, évidemment, il y a des réminiscences, mais... Il faut savoir s'entourer bien aussi. C'est une philosophie, un art aussi, quoi, de sentir les bonnes personnes qui...
Les bons vignerons.
Je le dis tout le temps, c'est facile à dire. C'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et puis aimer rire, quoi. Aimer rire, c'est important de chercher la rigolade. Voilà.
Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini. Et nos larmes ne sont qu'un peu de...
Alors ça, c'est une chanson c'est celle qui a donné le titre à l'album, il y a un an, Il n'est jamais trop tard. Vous écrivez « Car le ciel est infini et nos larmes ne sont qu'un peu de pluie ».
Oui, voilà, le ciel est infini dans les yeux de celui qui sait voir. Oui, là, c'est pareil, c'est un petit peu savoir saisir les jolis moments de la vie, parce qu'il y en a plein, et essayer d'arrêter de se plaindre. Et voilà, c'est tellement joli, la guitare, la belle guitare, quoi. Il y a plein de moi qui aime beaucoup la musique manouche, je connais plein de manouches qui sont des virtuoses, des musiciens extraordinaires. C'est tellement, je veux dire, ce qui est bien, c'est qu'on peut, c'est comme si on est alpiniste, on peut grimper une petite montagne et au sommet, on voit des choses trop belles. Il y a plein de domaines comme ça où on peut chercher. Il y a le vin, il y a la musique. On n'est pas obligé de suivre les moutons, quoi. Ça c'est un truc qui m'énerve, c'est les moutons, quoi.
Ouais.
Donc il y en a trop.
D'ailleurs,
moutons de Panurge.
D'ailleurs, peut-être qu'on peut pas vraiment être heureux quand on suit trop, hein, quand on est trop follower au fond, quand on cherche pas sa patte singulière.
Je sais pas, mais il y a tellement de gens gentils, on oublie parce qu'on. On écoute trop les infos, c'est l'enfer. Combien de gens on connaît qui disent « Ah, oh, moi j'ai arrêté d'écouter les infos, je me porte 10 fois mieux. »
Surtout au réveil.
C'était... Non mais c'est vrai. C'était
désolé terrible, pour hein. La matinale de ouais. France Inter.
Non, et en même temps, on a envie des fois de se coltiner à toute la merde du monde, si j'ose dire. On a envie de... Mais c'est... Et alors j'adore moi, les endroits où il n'y a pas trop de densité humaine.
Ouais.
Je supporte pas les endroits où il y a trop de monde. Quoi. J'adore la campagne, j'adore la Corse quand il n'y a pas de monde, j'adore... Puis j'adore rencontrer des gens simples et différents, et c'est tellement bien. Il y a tellement de gens encore géniaux. C'est vrai qu'il faut pas être trop pessimiste non plus. J'ai une tendance comme ça, peut-être. La faute de ma mère, ça. Je vais aller chez le psy. Ça va, je vais finir chez le psy. Mais c'est le. Elle était tellement pessimiste et angoissée de tout que ça a peut-être rejailli sur mon tempérament, qui fait qu'aujourd'hui, je recherche justement. Je fais tout pour essayer d'être optimiste.
La légèreté aussi.
Et j'essaye d'être léger parce que j'ai un fond qui est pas léger, quoi.
Et justement, c'est ce que raconte cette chanson. Nos larmes sont présentes quand même. Elles ne sont qu'un peu de pluie. Donc quand vous avez le cœur lourd, Thomas Dutronc, quand ça va pas, ou quand vous pensez à des choses problématiques, vous êtes plutôt du genre à essayer d'avancer en évitant d'y penser. Et éventuellement, ça fait une chanson. Ou alors de faire des chansons en accueillant ça. Vous voyez, plutôt évitement ou plutôt regarder en face ce qui va pas.
Mais oh là là, c'est difficile. Moi, je m'ouvre beaucoup. J'ai jamais été chez le psy, mais je trouve ça très courageux de le faire si on en a besoin. Parfois, on n'ose pas, ça fait tout de suite. Mais je m'ouvre à mes amis. Et ça, parfois, boire un verre permet de s'épancher. Ça libère quand même. In vino veritas, ça libère. Alors, effectivement, je conçois qu'il y a des gens qui, dans la religion, leur interdit de boire. Je sais aussi que l'alcool peut amener à des dérives, mais bon, c'est bien d'affronter les dangers, quoi. Je veux dire, et de faire attention. Si on affronte aucun danger, on est fort de rien, on n'est pas courageux finalement.
Dans votre chanson, j'aime plus Paris. Vous racontez justement que vous avez besoin d'arriver dans un endroit où il y a moins de densité humaine. Une chanson qui a d'ailleurs été primée par le prix Charles Cros, c'est ça?
Exactement. Oui, c'est pour ça que j'aime Brassens aussi. J'adore quand il parle des. Enfin non, mais bon, je vais pas dire ça. Non, mais il parle des.
Si, si.
Il parle des cons. C'est assez marrant. C'est dans le pornographe. Il dit. Me demandez pas de chanter ça si. Je vais vous chanter que sur le balcon j'aime avoir passé les cons. Ça me fait rire. Enfin.
Et il y a aussi une bonne phrase de Brassens qui va vous faire douter de votre bande de potes quand il dit à plus de deux on plus est de une deux. Bande de cons.
Voilà. Ouais. Ouais. Elle est bien aussi. Des proches peuvent citer cette phrase souvent. Bah oui, oui, non, mais là, la bande de potes, quand c'est trié sur le volet, là, c'est des musiciens incroyables, on devient tous amis avec les techniciens aussi, c'est des gens fins, on écoute plein de musique aussi, on partage une passion, c'est génial, on a beaucoup de chance.
Dans votre chanson, Je suis pas d'ici, alors c'est elle qui est sur l'album comme un manouche sans guitare,
ah oui.
Et qui a été primée, je crois. Vous dites, je suis musicien un soir, je suis le roi, un soir, je suis le chien. Ouais. Racontez-nous un peu comment on passe de l'un à l'autre comme ça, si facilement.
Oh bah parce que parfois on a des hôtels sublimes. Alors ça c'est une règle, je sais plus comment s'appelle cette règle. Dès que t'as un hôtel sublime, tu peux passer dedans une demi-heure. Et quand il faut rester 2 jours dans un truc, t'as un hôtel plus compliqué avec des machins en panne, des trucs cassés, des bruits, une porte qui se claque, la porte qui se ferme et que le truc fait brouh. Je sais pas, écoute. Oui c'est... Bon là maintenant, j'ai un peu... Quand j'ai écrit cette chanson, j'étais moins connu, mais je suis toujours quand même très bien accueilli. Mais parfois, parfois on peut très mal manger. Moi, je suis pas le premier à me plaindre. Je me plains pas souvent, mais disons que ma patience a des limites. Des fois, quand ça va trop loin, quoi, genre la clim en panne, j'ai pété un plomb là 2 fois de suite. pas pouvoir dormir du tout parce que la clim est en panne et qu'il fait 800 degrés.
On a failli ne jamais vous voir.
Dans un bus fermé, ouais, voilà.
Je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo.
Alors Thomas Dutronc, vous n'êtes pas d'ici. Vous avez une voix marrante.
Je suis d'ailleurs. Ouais, non, c'est mon premier disque. J'ai une voix quand même. J'avais jamais chanté de ma vie. Moi, je voulais pas être chanteur et c'est.
Ouais.
J'ai fait ça comme ça, donc c'est. Et c'est sûr que il y a plein de gens là dans les concerts qui me disent putain, mais comme tu chantes maintenant, c'est la folie. Et c'est toujours mon rêve. Voilà, de. Enfin. Là, j'ai vraiment fait beaucoup de progrès en chant. Je dis ça, ça fait con, ça fait.
Non, mais c'est sûr. Hein. Mais d'ailleurs, ça a été un énorme succès, cet album 2007, je crois, comme un manouche en guitare.
On a vendu 1 million, dis donc. On est arrivé au.
Dingue. Ouais.
Ça s'appelle Double Diamant.
Voilà. Et du
le
coup,
million, comme disaient les inconnus.
Ouais, et comme disent aussi les rappeurs, t'as fait le million, t'as fait le million. Mais du coup, c'est marrant parce que vous chantez. Moi, je suis d'accord. Enfin, je me permets quoi, de mieux en mieux. Il y a quelque chose d'un crooner nouveau. Il n'y avait pas cette voix-là au début.
Ouais, non.
Et pourtant, ça a quand même beaucoup plu.
Quand même, ouais.
Je crois qu'il y avait quelque chose comme qui était très intéressant pour les gens de réconcilier un peu le jazz manouche et la chanson française. Ça, c'était pas vraiment fait en fait.
Ouais, voilà. Mais après, c'est. Oui, il y a ce morceau qu'on vient d'écouter, et comme un manouche, qui sont très jazz manouche, entre guillemets, il y a un ou deux instrumentales où je joue carrément, instrumentaux, pardon, où je joue carrément de la guitare sur l'album, mais sinon, c'est plutôt pop et tout ça, donc c'est vrai que des fois c'est curieux, enfin, ça veut rien dire, jazz manouche. Pareil, j'ai vu des gens aussi qui me disaient, ah ben, on pensait que tu faisais du jazz manouche, ils pensaient que j'allais faire deux guitares voix pendant 1h30, on a un show, on est 8 musiciens avec des synthés, des boucles. On a une version de mon titre Aragon, un peu la même qu'on passait, je sais pas si vous allez passer cet extrait, mais ça me ferait plaisir.
Lequel?
Le morceau Aragon, par exemple, la version qu'on
a. On le passera dans l'émission.
La version qu'on a avec mon père, soit album, soit live. Mais c'est un morceau aussi qui plaît énormément. Il y a beaucoup de boucles. Il est plus moderne, tu vois. Il y a un truc très pop rock. Enfin, il y a des moments très différents dans mes concerts maintenant. J'ai toujours la hantise, c'est que justement ça ronronne trop, qu'on s'ennuie, que ce soit toujours pareil. Enfin, tu vois, il y a ce recul. J'ai cet état d'esprit. Moi, quand je vais voir un concert, je suis les vieux mopettes, tu sais, qui critiquent tout. Il y a rien qui va. C'est trop long. On se fait chier. Donc là, on passe vraiment de plein d'univers très différents. Il y a beaucoup de surprises musicales aussi. Et je me mets toujours à la place des gens. Je suis un espèce de passeur, quoi. On me dit ça aussi souvent parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas le jazz ou qui aiment pas la musique instrumentale ou qui trouvent ça trop long, ça les emmerde. Ils viennent écouter des chansons, ils viennent faire la fête, ils ont envie de danser, d'écouter un message. Et voilà, quoi. C'est ça que je cherche à faire, même si, mais au milieu des chansons, paf, je vais glisser d'un coup un solo
de
folie, de piano. Ouais. C'est des surprises. Et d'un seul coup, j'ai mon pianiste, par exemple, Eric Lénini, ou mon guitariste Rocky Gresset, ou Aurore Voilke au violon. Ils sont tellement incroyables.
Il s'appelle Rocky.
Rocky Gresset, oui, il est manouche et c'est son nom, quoi, Rocky.
Ouais.
pas pour le film, mais pour justement le Rocky Marciano, le boxeur d'avant.
Et c'est là où il y avait une reprise instrumentale par vous de Eric Satie.
Oui, aussi, on avait repris ça, par exemple.
C'est surprenant.
C'était dans des bonus, ça, c'était pas dans l'album version originale, c'était dans les bonus.
Eh ben, Aragon, on va quand même l'écouter.
Ah, génial.
Tout est affaire de décor. Changer de ligne, changer de corps. Quoi bon puisque c'est encore moi qui m'amène à me trahir, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles.
Thomas Dutronc, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit par rapport à la question du bonheur de l'émission, c'est que souvent les gens sont tristes parce qu'ils sont sur une seule corde, ils sont dans une identité simplifiée, ils vivent toujours la même chose, ils se présentent par une sorte de storytelling social un peu rodé, et là vous nous donnez une belle piste de bonheur, je trouve, de se diversifier, de tenter des choses différentes, et je pense qu'il y a sûrement quelque chose qui articule le bonheur à la surprise, se laisser surprendre par la vie, et savoir aussi surprendre un peu les autres.
Suicide, is it love or suicide, is it love?
C'était Wet Leg, 6 pierres.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Thomas Dutronc sur France Inter, sous le soleil de Platon, et nous parlons, cher Thomas, de votre philosophie du bonheur, votre philosophie de la vie. On a entendu, voilà, beaucoup de choses très intéressantes, se décentrer, être dans la joie du partage, surprendre, se surprendre, et surtout, je dirais, faire de son mieux.
Ce qui est fou, c'est qu'on n'a jamais, on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on voudrait faire, finalement, si on est... Par exemple, je sais pas, les mathématiques, ça paraît con de parler de ça, mais c'est fabuleux aussi. C'est un espèce d'univers étrange, abstrait, qui peut être passionnant. Alors évidemment, il y a les maths à l'école, avec le prof qui vous tape dessus. Enfin non, maintenant, ils ont plus le droit. Mais je veux dire, moi j'aimais bien ça, même à l'école, mais...
Les maths?
Ouais, mais parce que j'ai eu de la chance de tomber sur des profs bons qui m'ont... Enfin, c'est des matières passionnantes. Vous parlez de philosophie, il y a des choses comme ça, on n'a pas assez d'une vie pour aller loin dans les maths, dans la philo, l'étude de l'univers et du cosmos. Il y a des nouveautés aujourd'hui. Moi, dans ma chanson Les Frites, en live sur scène, je parlais de milliards de systèmes solaires dans une galaxie, milliards de galaxies dans l'univers. Mais là, carrément, c'est des milliards de galaxies dans un super amas et des milliards de super amas. Enfin, c'est.
Et sur quoi le rapport avec les frites?
Parce que c'est une chanson live. Il faut l'avoir portée. Et voilà, je trouve que on manque aujourd'hui sauf sur France Inter, évidemment. Mais sinon, on manque dans les réseaux sociaux, les machins. Mon père appelle ça les fléaux sociaux. Je trouve ça pas mal. C'est-à-dire qu'on n'est plus, y a plus assez d'émissions mainstream. Par exemple, en politique, quand j'étais jeune, il y avait l'heure de vérité avec la super musique de Paul McCartney. Et là, on avait les grands politiciens de l'époque qui étaient interviewés par les meilleurs journalistes. Mais ce qui était bien, c'est que toute la France regardait ça, et donc les extrêmes étaient souvent démontés, donc elles pouvaient pas monter avec leur réseau de leur côté, si vous voulez. Donc il y avait une espèce de cohésion comme ça, et voilà. Et je trouve, et on voyait aussi de temps en temps, on avait apostrophe machin, il y avait des grands philosophes, des grands écrivains, parfois aussi des scientifiques qui parlaient. Et je trouve que ça manque beaucoup, parce que maintenant, avec les algorithmes, si vous aimez les footballeurs et les nanas en maillot de bain, vous avez ça, que ça, sur vos réseaux sociaux.
Mais heureusement, il y a Sous le seuil de Platon.
Et heureusement,
tous les
vous
matins
êtes là. Heureusement, vous êtes là.
Cet été. Et d'ailleurs, j'ai reçu prix Nobel de physique, Alain Aspect, plein de gens. Et
voilà,
c'est intéressant,
c'est
dans votre chemin, on ne sait pas ça. Donc, les mathématiques ont été importantes. D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit rapport avec la guitare, parfois, la composition. Et puis aussi la peinture, je crois. Ça a été important pour vous?
J'ai bien aimé l'histoire aussi.
Ouais.
La peinture, j'ai fait une fac d'art plastique option cinéma. Je voulais faire du cinéma derrière la caméra. Mais les maths, ouais, j'ai eu, grâce à un prof quoi, que j'ai eu à l'école, j'étais assez doué, j'étais premier de la classe un peu.
Ah ouais?
Et il fallait bien que je travaille. J'avais une grand-mère.
Et à l'époque, c'était en terminale C, c'est ça?
J'ai fait terminale C. J'avais une grand-mère maternelle qui rigolait pas. Si on travaillait pas, on était punis, mais genre, à l'ancienne, quoi. Donc, moi, je flippais de. Puis en plus, je voulais surtout pas. C'est comme dans. Il y a un Lucky Luke comme ça où c'est le fils du colonel. Comme c'est le fils du colonel, il fait toutes les corvées. C'est lui, il se fait défoncer tout le temps. Donc c'était un peu pareil. Moi, comme j'avais des parents célèbres, j'étais obligé d'être à leur hauteur et d'être bon élève, quoi. Je pouvais pas profiter justement de la notoriété de mes parents pour rien foutre, pour machin.
Enfin, donc je travaillais à fond. Vous auriez pu, comme d'autres, mais vous n'avez pas envie.
J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Et voilà. Mais on rigolait bien. J'ai adoré les mathématiques. J'ai découvert, par exemple, grâce à ce prof qui m'a donné des cours particuliers, qu'il y avait des infinis plus ou moins grands. Ça, c'est par exemple, c'était une belle idée. Et alors j'ai dit, mais c'est pas possible, quand c'est infini, il peut pas y avoir un infini plus ou moins grand. Et si, parce que par exemple, vous avez l'ensemble n des chiffres 0, 1, 2, 3, 4. Si tu fixes un chiffre, au bout de 50 000 millions de milliards d'années, tu arriveras à ce chiffre si tu comptes. Par contre, il y a d'autres ensembles, tu fixes un chiffre et entre deux chiffres, c'est encore infini.
Ah oui,
donc c'est
sûr,
un univers, ouais. C'est dimension 2, quoi. Et ça, l'ensemble R, par exemple. Donc c'est abstrait, mais c'est magnifique de voir l'esprit humain, l'abstraction, tout ça. Et je regrette le manque, d'élévation en général. Et les réseaux sociaux, je pense, nous rabaissent vraiment. Et je me permets de dire ça parce que je trouve qu'il faut faire un peu de résistance à ces GAFA qui viennent des États-Unis. Moi, en tant qu'artiste, je suis obligé de travailler pour remplir ces réseaux, pour travailler gratos, parce que si tu le fais pas, t'existes pas. Mais ça me gave, je suis pas de cette génération, ça me saoule totalement. Et voilà.
En tout cas, votre référence aux deux types d'infini, l'un étant plus grand que l'autre, permet de mieux comprendre les paroles de Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini et nos larmes ne sont qu'un peu de pluie.
ciel, le même bleu, le même amour, le même feu.
Alors Thomas Dutronc, c'est un extrait très, très beau, je trouve, de Dans tes yeux, qu'on trouve sur l'album Il n'est jamais trop tard, justement, votre dernier album.
Ouais, c'est un des titres les plus réussis, je trouve.
Ouais.
Mais
moi aussi, je peux me permettre.
Ouais, voilà, mais c'est pas pourquoi. C'est pas forcément ça qui passe à la radio, j'y comprends rien, moi, cette histoire de radio, de
mais ça nous intéresse sociaux. Beaucoup pour l'émission, parce que, d'abord, vous chantez comme avant, voilà, vous chantez de façon très profonde, enfin, vous prenez votre puissance de chanteur, j'ai l'impression, de façon nouvelle, si je peux oser cette idée, mais surtout, ce qui nous ramène à la thématique de la joie et du bonheur, c'est qu'on a l'impression que vous trouvez quelque chose qui est vraiment vous-même. Et vous savez, Bergson disait quelque chose de très joli. Il dit en fait, on est libre quand on trouve la mélodie intérieure de sa personnalité. C'est-à-dire comme une note qui n'est qu'à soi et qui fait que même si on change, même si on vieillit, il y a un moment, c'est ma mélodie ou pas, quoi. Je suis sur ma note ou pas. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on entend là. Et que c'est aussi une définition du bonheur. Assumer quelque chose qui n'est qu'à soi.
De savoir qui on est, de se rapprocher un petit peu de son essence, c'est sûr, c'est fou. Il y a cette espèce de... On avance d'un côté au recul de l'autre, effectivement, plus on avance dans l'âge, plus on comprend de choses, on a d'expérience de la vie, on avance en sagesse aussi, voilà.
Ouais.
Et en même temps, on est de plus en plus fatigué, et on sent que la fin approche aussi. Enfin, je veux dire, on n'a pas la même énergie.
C'est vous êtes encore jeune, quand même.
Oui, oui. Mais ça va peut-être changer dans 100 ans, avec les mecs qui... On va peut-être remplacer son foie, ouais. Ses poumons, tout. On va peut-être être des hommes robots.
Je vous recommande, Thomas Dutronc, un très bon livre, Middle Age, d'un philosophe anglais qui s'appelle Hamilton, aux éditions Autrement. Et ce qui est très joli dans ce livre, c'est qu'il raconte Middle Age, le milieu de la vie.
Ouais.
Et il raconte que c'est entre 35 et 60 ans en fonction des gens, et qu'il y a un double mouvement, c'est ce que vous venez de décrire. D'un côté, je me connais mieux, je gagne en sagesse, je sais plus ce que j'aime, et je suis plus puissant parce que je me développe, quoi.
Ouais.
Et de l'autre, les forces de vie commencent à diminuer, à s'amenuiser.
C'est vrai.
Et c'est cette dialectique entre les deux moments qui est hyper belle.
C'est vrai. C'est vrai. Il y a cette espèce d'écartèlement. Et du coup, on apprécie les plaisirs de la vie. Enfin, c'est fou, ouais. Quand je pense à ma mère qui commençait à être. Qui était très malade et qui. Elle ne savait pas combien de printemps, si elle allait être un ou deux, qu'elle allait pouvoir voir encore, voir les bourgeons revenir sur les arbres, les oiseaux chanter. C'est émouvant quand la vie est tellement fragile et tellement précieuse et merveilleuse. Et moi, je trouve que l'être humain salit cette chance, quoi, par rapport aux animaux, aux oiseaux, aux poissons. Enfin, j'en sais rien. Je trouve qu'on est pendant longtemps la philosophie, c'était de dire que l'homme était l'être supérieur sur Terre. Moi, je trouve juste qu'on est des espèces de primates déprimants, quoi, des déprimates un peu évolués, mais on reste quand même des primates, quoi. Voilà, c'était mon message. L'être humain est un primate.
On n'est pas assez conscient de la chance qu'est l'existence, en fait.
Regarde la grâce des... Ouais, la baleine a un cerveau, je sais pas, 20 fois plus gros que le nôtre, et elle s'en sert pas pour raisonner pour des choses comme nous. Elle a moins cette technique, cette industrie. Mais par contre, elle se rappelle de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Elle se rappelle de tous les chemins, de toute la carte des fonds marins. Enfin, c'est voilà, le mystère de la vie est tellement beau.
Vous connaissez le Craterop écaillé?
Alors non.
C'est un oiseau altruiste. C'est-à-dire qu'en fait, il va proposer ses services de gardien de nid aux oiseaux d'autres espèces.
Contrairement au coucou qui, lui, est opportuniste.
Donc, c'est ça, un opportuniste comme chantait votre père. Le coucou, donc c'est cet opportuniste. Et puis le Craterop écaillé, quand les petits oisillons sont nés d'une autre espèce, il va proposer ses services de gardien de nid. Comme ça, la mère va chasser. Et quand elle revient, il demande rien et il se casse.
Trop mignon.
Donc comme quoi, hein, putain, cette bienveillance...
Il y a tout dans la nature, c'est génial. Alors, tu parlais de philo, comme on parle un peu de philo. À la fac, j'ai eu un prof qui était assez marrant. Il clopait quand même en cours, c'était drôle. Il nous a conseillé d'essayer les champignons hallucinogènes aussi. Enfin,
C'était où ?
C'était à Paris 1, Saint-Charles.
Ouais.
Fac d'art plastique, Sorbonne, quoi. Mais c'était dans une annexe. Et j'ai découvert Platon à cette époque, j'en ai lu beaucoup, j'ai adoré.
Ouais.
Et notamment, ma porte d'entrée, c'était Gorgias le sophiste, c'était vachement drôle. C'était un mec à l'époque de la Grèce, qui était un beau parleur, comme les mecs un peu de la télé aujourd'hui, enfin je sais pas, qui des espèces de chroniqueurs comme ça, qui d'un seul coup font la pluie et le beau temps. Bon, il y en a moins maintenant, ça s'écarte un peu avec les réseaux sociaux, Mais et donc c'était ce Gorgias le sophiste, et Socrate il arrive, qu'est-ce que vous êtes fort, qu'est-ce que vous êtes, enfin tu connais, mais qu'est-ce que... Et en fait il le démonte finalement en disant, parce que le mec il parle de tout, dans les cours du roi à l'époque, il parle de tout, il est très respecté, mais en fait, donc il commence à le caresser dans le sens du poil, et à lui dire, mais en fait, mais quand même finalement, pour parler de chaussures, il faut être cordonnier, et en fait, lui il est juste beau parleur, il parle de tout, mais il sait rien, enfin c'est... Et ça m'a vraiment plu. Il y avait un côté super-héros de la philosophie en sandales et toge.
Exactement. Et ben, ce sera une parfaite conclusion, Thomas Dutronc. Vu qu'on est précisément sous le soleil de Platon, je vais essayer de vous remercier d'être sorti de ce bus sans clim et d'avoir fait une pause dans votre tournée.
Voilà, et pour l'été, je pense que voilà, l'habit socratien peut être platonicien, peut être sympa, quoi. Une toge et des sandales, ça peut.
Et puis derrière, il y a une philosophie de la vie qu'on a entendue. Alors votre philosophie, vous avez dit, j'aime parler des choses sérieuses sans me prendre au sérieux. On entend une vraie philosophie de l'amitié aussi. Alors une dialectique, parce que vous aimez la bande qui réconcilie. Et en même temps, vous savez, comme Brassens, qu'à plus de deux, on est déjà une bande de potes. Et puis, on a senti quand même...
Une bande de cons, pardon.
Ouais. Et puis, on a senti cette espèce de générosité. Voilà, vous avez envie de partager, envie de surprendre. Et une façon très belle d'hériter de votre histoire si folle et de vos deux parents.
Merci pour votre accueil.
Et on se souviendra, quand c'est pas facile, quand tu cherches à trouver ta place, essaye au moins de faire de ton mieux, de surprendre, de connaître la joie du décentrement. Merci beaucoup Thomas Dutronc.
Merci.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher, avec à la technique l'excellent Théo de Lobadère.